Chapitre 11. Une illusion de perception. Il est cependant tout à fait compréhensible que nous nous soyons concentrés sur sa déesse. Sa trahison était encore récente, et j'en voyais chaque jour la marque en passant devant des baraquements vides et des veuves éplorées. Nous savions que sa déesse, dans son orgueil, ne se contenterait pas de ces massacres. Il tramait autre chose. Extrait du journal intime de Navani Colin, GZH 1174. Shallan se réveilla plus ou moins au sec, étendu sur une pierre irrégulière qui saillait de l'océan. Les vagues lui léchaient les orteils, bien qu'elle les sente à peine dans son engourdissement. Avec un gémissement, elle leva la joue du granit humide. Il y avait de la terre non loin de là, et le ressa qui déferlait avec un grondement sourd. De l'autre côté, elle ne vit que la mer se déployant à perte de vue. Elle avait froid, et sa tête était parcourue d'élancements, comme si elle l'avait cognée plusieurs fois contre un mur. Mais elle était en vie, sans bien comprendre comment. Elle leva la main pour frotter le sel séché qui lui démangeait le front, et fut prise d'une quinte de toux épuisée. Ses cheveux collaient à sa joue, et sa robe était tachée par l'eau et les algues déposées sur les rochers. Comment ? Puis elle vit une grande coquille brune dans l'eau, presque invisible, qui se déplaçait vers l'horizon. Le centide. Elle se leva en titubant et s'accrocha à la pointe de son perchoir rocheux. Sonnée, elle regarda la créature jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Quelque chose bourdonnait derrière elle. Motif avait repris sa forme habituelle à la surface de la mer bouillonnante, translucide, comme s'il était lui-même une petite vague. « Est-ce que... » Elle toussa, s'éclaircit la voix, puis s'assit sur le rocher en geignant. « Est-ce que quelqu'un d'autre s'en est sorti ?»« Sorti ?» demanda Motif. « D'autres gens ? Les marins ? Est-ce qu'ils se sont échappés ?»« Pas certain. » répondit Motif de sa voix bourdonnante. « Navire, parti, éclaboussure, rien vu. »« Le centide, il m'a secouru. » Comment la créature avait-elle su quoi faire ? Était-elle intelligente ? Se pouvait-il qu'elle ait, d'une manière ou d'une autre, communiqué avec elle ? Avait-elle manqué une occasion de... Elle faillit éclater de rire lorsqu'elle comprit la direction que prenaient ses pensées. Elle avait failli se noyer. Jasna était morte. L'équipage du plaisir du vent avait sans doute été massacré ou englouti par la mer. Et au lieu de pleurer leur perte ou de s'émerveiller d'avoir survécu, Shallan se lançait dans des conjectures d'érudite. « C'est comme ça que tu fonctionnes », l'accusa une partie d'elle profondément enfouie. « Tu cherches à te distraire. Tu refuses de penser à ce qui te dérange. » Mais c'était ainsi qu'elle avait survécu. Shallan s'entoura de ses deux bras pour se réchauffer sur son perchoir rocheux et contempla l'océan. Il fallait qu'elle regarde la vérité en face. Jasna était morte. Jasna était morte. Shallan avait envie d'éclater en sanglots. Une femme si brillante, si incroyable, avait simplement disparu. Jasna essayait de sauver les autres, de protéger le monde lui-même. Et on l'avait tué pour cette raison. Hébété par la soudaineté de ce qui venait de se produire, Shallan resta simplement assise là, frissonnante, à fixer l'océan. Son esprit lui semblait aussi engourdi que ses pieds. Un abri. Il lui fallait un abri, n'importe lequel. Les marins, les recherches de Jasna étaient un sujet d'inquiétude moins immédiat. Shallan était échoué sur un rivage presque entièrement inhabité, dans une région qui gelait la nuit. La marée s'était lentement retirée, et l'interstice séparant Shallan du rivage n'était plus aussi large que précédemment. Une bonne chose, car elle ne savait pas réellement nager. Elle s'obligea à bouger, bien qu'il lui soit aussi difficile de soulever ses membres que de déplacer des troncs d'arbres tombés à terre. Elle serra les dents et se glissa dans l'eau. Elle sentait son froid mordant. Elle n'était donc pas totalement engourdie. « Shallan ?» demanda Motif. « On ne peut pas rester assis ici éternellement, » répondit-elle en s'accrochant au rocher pour descendre jusque dans l'eau. Quand ses pieds touchèrent de la pierre en dessous, elle osa lâcher prise et se dirigea vers la terre en nageant à moitié, soulevant des gerbes d'éclaboussures. Il lui sembla avaler presque toute la baie tandis qu'elle luttait contre les vagues glaciales jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à marcher. Les cheveux et la robe bruisselants, prise d'une quinte de toux, elle s'avança en titubant sur le rivage sablonneux, puis tomba à genoux. Ici, le sol était jonché d'une douzaine de variétés d'algues qui se tortillaient sous ses pieds et se retiraient glissantes et visqueuses. Des crémillons et des crabes plus grands filaient dans tous les sens. Et certains, près d'elle, émettaient des claquements dans sa direction, comme pour la repousser. Engourdie, elle mesura l'ampleur de son épuisement en s'apercevant qu'elle n'avait même pas pensé, avant de quitter le rocher, aux prédateurs marins sur lesquels elle avait lu. Une dizaine d'espèces différentes de grands crustacés, qui ne seraient que trop ravis d'avoir une jambe à arracher et à mâchonner. Des sprènes de peur jaillirent soudain du sable en se tortillant, pareilles à des limaces violettes. Elle se sentit très bête. C'était maintenant qu'elle avait peur, après avoir nagé. Les sprènes s'évanouirent rapidement. Chalan lança un coup d'œil en arrière à son perchoir rocheux. Le sentine n'était sans doute pas parvenu à la déposer plus près, car l'eau devenait trop peu profonde. Père des tempêtes, quelle chance elle avait d'être en vie. Malgré son anxiété croissante, Chalan s'agenouilla et traça un charme glyphique dans le sable en guise de prière. Elle n'avait pas les moyens de le brûler. Pour l'heure, il lui fallait partir du principe que le Tout-Puissant l'accepterait. Elle baissa la tête et resta assise dans une posture de déférence le temps de 10 battements de cœur. Puis elle se leva, et gardant espoir malgré tout, se mit à chercher d'autres survivants. Cette partie du rivage était ponctuée de criques et de plages en grand nombre. Elle remit à plus tard sa recherche d'un abri et se contenta, pour l'heure, de suivre un long moment le littoral. La plage était composée d'un sable plus grossier qu'elle ne s'y attendait. Il ne correspondait pas du tout au récit idyllique qu'elle avait lu et crissait de manière désagréable sous ses orteils lorsqu'elle marchait. Il se soulevait à ses côtés en une forme mouvante, qu'un motif lui emboîtait le pas, bourdonnant d'un air inquiet. Chalan longea les branches et même des fragments de bois qui provenaient peut-être de navires. Elle ne vit personne et ne trouva aucune empreinte de pas. Tandis que le jour s'étirait, elle renonça et s'assit sur une pierre usée par les intempéries. Ses cheveux étaient dans le désordre le plus total. Sa sage bourse contenait quelques sphères, mais aucune n'était infusée. Elle ne lui servirait à rien, à moins qu'elle ne trouve la civilisation. « Du bois à brûler », songea-t-elle. Elle allait en rassembler et faire un feu. Dans la nuit, d'autres survivants le verraient peut-être. À moins qu'ils n'attirent des pirates, des bandits ou même les assassins qui s'étaient trouvés à bord du navire s'ils avaient survécu. Chalan grimaça. Qu'allait-elle faire ? « D'abord un petit feu pour te tenir chaud, » décida-t-elle. « Protège-le, puis guette d'autres feux dans la nuit. Si tu en repères un, essaie de l'inspecter sans trop t'approcher. » Un plan très judicieux, si ce n'est qu'elle avait passé toute sa vie dans un somptueux manoir avec des serviteurs qui allumaient le feu pour elle. Elle n'en avait jamais fait naître un dans une cheminée, encore moins en pleine nature. Non des bourrasques. Elle aurait de la chance si elle ne mourait pas de froid, ou de faim. Que ferait-elle quand une tempête majeure éclaterait ? Quand la prochaine devait-elle avoir lieu ? Le lendemain soir ? Ou bien le surlendemain ? « Venez !» s'exclama Motif. Il vibrait dans le sable. Des grains se mirent à trembler tandis qu'il parlait, jaillissant dans les airs puis retombant autour de lui. « J'ai déjà vu ça, » se dit Chalan, pensive. « Du sable sur une plaque. Kabzal !»« Venez !» répéta Motif avec plus d'insistance. « Qu'y a-t-il ? » demanda Chalan en se levant. « Nom des foudres, quelle fatigue !» Elle avait le plus grand mal à bouger. « Tu as trouvé quelqu'un ?»« Oui. » Voilà qui retint aussitôt son attention. Sans poser davantage de questions, elle suivit Motif qui avançait d'un air surexcité le long de la côte. Comprendrait-il la différence entre quelqu'un de dangereux et quelqu'un d'amical ? Pour l'heure, épuisée et transie, elle s'en moquait presque. Il s'arrêta près de quelque chose d'à moitié submergé dans l'eau et les algues au bord de l'océan. Chalan l'étudia, songeuse. Une malle, non pas une personne, mais une grande malle en bois. Le souffle de Shallan se coinça dans sa gorge et elle se laissa tomber à genoux pour ouvrir les fermoirs et soulever le couvercle. À l'intérieur, tel un trésor scintillant, se trouvaient les livres et les notes de Jasnah, soigneusement emballés, protégés par leur étui étanche. Jasnah n'avait peut-être pas survécu, mais l'œuvre de sa vie, si.